Et ce que je vous propose, c'est qu'on se mette ensemble à l'écoute de cette parole. Je vous propose qu'on se tourne vers un texte qu'on n'a peut-être pas souvent l'habitude de lire, enfin je ne sais pas quelles sont vos habitudes. C'est un texte qui a été écrit il y a environ 2500 ans. Alors je rassure aussi ceux qui n'aiment pas l'histoire, hein, je ne vais pas faire un cours d'histoire, non. Mais voilà, la parole de Dieu est vivante, et même si ce texte a été écrit il y a 2500 ans environ, eh bien il a aussi des choses à nous dire, et c'est pour ça qu'on va se mettre ensemble à son écoute. Alors même sans faire de cours d'histoire, si on veut bien comprendre ce que nous dit ce texte, c'est important de le remettre dans son contexte. Sinon on risque de passer à côté de ce que Dieu veut nous dire par sa parole. Les textes qu'on va lire se trouvent dans le livre du prophète Zacharie, hein, qui est à la fin de l'Ancien Testament, l'avant-dernier livre, hein, suivant de l'Ancien Testament, suivant les versions de Bible qu'on a. Alors, ce prophète, il a vécu à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et pour voilà, qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire, donc c'était un prophète du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, donc je vais remonter un petit peu en arrière, hein, était allé en Israël après la sortie d'Égypte. Et puis au bout d'un moment, il y avait eu des rois, hein, qui sont arrivés. Le premier roi, Saül, et puis David, et puis Salomon. Et à partir de Salomon, le roi qui a suivi, eh bien, a eu une scission du royaume. Le royaume d'Israël s'est coupé en deux parties, royaume du nord et royaume du sud. Et Dieu avait averti son peuple que s'il lui désobéissait, s'il l'abandonnait, eh bien Dieu enverrait des nations pour l'emmener hors de son territoire. Et c'est ce qui s'est passé pour le royaume du nord en 722 avant Jésus-Christ. Il a été amené en Assyrie par les Assyriens, hein, qui régnaient sur le Proche-Orient ancien à l'époque. Et puis l'histoire a continué. Le royaume du sud n'a pas tiré leçon de ce qui s'était passé. Et lui, il s'est trouvé aussi emmené hors de son pays, cette fois par les Babyloniens, qui étaient devenus le royaume dominant au Proche-Orient. Et donc là, c'est en 587 avant Jésus-Christ, avec la destruction du temple. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est avant Zacharie. Et puis en 539 avant Jésus-Christ, alors là c'est un nouveau royaume qui dominait sur le Proche-Orient ancien, c'est le royaume des Perses, avec un roi qui s'appelle, un empereur, Cyrus. Et cet empereur-là, à un moment, il a fait passer un décret qui permettait au peuple de rentrer chez eux pour rétablir leur lieu de culte. Et à cette occasion-là, les Juifs, ceux qui ont voulu, ceux qui ont pu, sont retournés en Israël pour commencer à rebâtir le temple, hein, qui avait été détruit en 587 avant Jésus-Christ. Donc là, on se situe en 537 avant Jésus-Christ. Ils ont commencé à rebâtir le temple. Et puis, bien sûr, il y en a qui n'ont pas aimé ça, les ennemis. Et ils ont commencé à leur mettre des bâtons dans les roues, et ils se sont arrêtés de construire le temple, en gros en 530 avant Jésus-Christ. Et pendant 10 ans, plus rien s'est passé. Et c'est là que le prophète Zacharie intervient, vers 520 avant Jésus-Christ, en 520 avant Jésus-Christ, où il va s'adresser au peuple pour l'exhorter à reconstruire le temple. Et nous allons lire un peu ce que ce prophète a pu dire au peuple. Alors, en quoi cela nous concerne-t-il? Parce qu'il s'adressait aux Juifs. Les Juifs qui étaient rentrés, ils étaient rentrés pour reconstruire le temple. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Dieu avait annoncé plus de 200 ans auparavant, dans le prophète Ésaïe, qu'il y aurait un certain Cyrus qui allait intervenir en faveur du peuple d'Israël. Hein, on trouve ça dans le livre du prophète Ésaïe. Et puis, par le prophète Jérémie, il avait annoncé que pendant 70 ans, le peuple serait en exil, mais qu'après, il allait rentrer. Alors, ceux les juifs qui vivaient au moment du décret de Cyrus, c'était fantastique. Les prophéties bibliques étaient en train de se réaliser. Alors, on imagine un peu comme ça devait être super pour eux, comme ils devaient être motivés, encouragés dans leur foi, et ils se sont mis avec ardeur à reconstruire le temple, comme je l'ai dit. Mais voilà, les ennuis sont arrivés et l'ardeur a disparu, et pendant 10 ans, ils se sont arrêtés. Alors, je pense que pour chacun d'entre nous, il nous arrive aussi de vivre des moments très forts avec Dieu dans notre vie. Des moments où notre foi, elle est boostée. Parce que Dieu vient de répondre de façon miraculeuse à une prière, parce que, enfin, je ne sais pas, pour des tas d'autres raisons. Et alors là, on a l'impression que on va avancer comme des bulldozers pendant longtemps. Et puis voilà, les difficultés surgissent. Et des fois, eh bien, cette ardeur qu'on avait disparaît. Et on s'arrête. Alors voilà pourquoi je crois que ça peut être intéressant d'écouter ce que dit le prophète à ce peuple, parce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on dit. On peut faire aussi un parallèle à un autre niveau. Le peuple était rentré pour construire, pour reconstruire le temple de l'Éternel. Et puis, voilà, donc il s'était arrêté. Et sous la plume du prophète Agée, hein, qui est un autre prophète qui a prophétisé au même moment, on apprend que c'était pas simplement à cause des ennemis qui n'avaient pas repris les travaux, mais qu'au bout d'un moment, ils s'étaient un peu installés dans leur confort, dans leur bien-être. Alors voilà, là aussi, je crois que ça peut nous parler. Nous aussi, nous sommes engagés, en tant que chrétiens, dans la construction du temple de Dieu qui est l'Église, hein, la Nouvelle Jérusalem. André, tout à l'heure, a lu des passages qui renvoient à cette Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse. Nous sommes engagés dans cette construction. Et peut-être aussi qu'il nous arrive, à un moment, d'oublier un peu cette mission, ou de penser plus à notre propre confort que à la construction du temple de Dieu, de l'Église de Dieu. Alors là aussi, je crois que se mettre à l'écoute de ce que dit le prophète peut nous être profitable. Donc, on va lire. Zacharie 1. Au 8e mois de la 2e année du règne de Darius, l'Éternel adressa la parole à Zacharie, fils de Barachie, petit-fils d'Ido, le prophète en ces termes. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. Dis à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur, et je reviendrai à vous. Ne faites pas comme vos ancêtres que les prophètes d'autrefois ont exhortés en leur disant « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, abandonnez votre mauvaise conduite, renoncez à vos mauvaises actions. » Mais vos ancêtres n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté attention à mes paroles. L'Éternel le déclare. Vos ancêtres, où sont-ils à présent? Et les prophètes, sont-ils toujours en vie? Or mes paroles et mes lois que j'avais ordonnées à mes serviteurs, les prophètes, de leur transmettre, n'ont-elles pas convaincu vos pères? Alors, ils ont changé d'attitude, et ils ont reconnu, oui, le Seigneur des armées célestes nous a traités comme il avait résolu de le faire, comme le méritaient notre conduite et nos actes. Je m'arrête là pour le moment, je reprendrai la lecture ensuite. Ce livre du prophète Zacharie, on peut distinguer deux parties principales. Une qui va du chapitre 1 au chapitre 8 et qui concerne surtout l'avenir un peu immédiat des Judéens, et puis les chapitres 9 à 14 qui concernent un avenir beaucoup plus lointain. On va s'arrêter juste sur la première partie et même que sur les chapitres 1 à 6. Cette partie, elle s'introduit par ce qu'on vient de lire, par un appel à la conversion. Et puis ensuite, il y a 8 visions qu'a reçues le prophète et qui nous sont rapportées. On s'arrêtera un peu sur ces 8 visions aussi qu'a reçues le prophète. Introduction par un appel à la conversion. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Cette introduction, elle est là par rapport à des paroles d'encouragement et d'espérance que Dieu va donner ensuite dans la bouche de son prophète. Et il me semble qu'elles sont là aussi pour éviter que, face à ces paroles d'encouragement, face à ces paroles d'espérance, pour éviter que le peuple se fasse une fausse illusion. Oui, cette bénédiction dont je vais te parler dans la suite, et on va le voir, c'est pas une bénédiction qui est indépendante de ton état spirituel. Revenez à moi et je reviendrai à vous, peut dire Dieu. Alors, ne vous bercez pas d'illusions. Vous avez besoin de revenir à moi par rapport à ce que je vous annonce dans la suite. Et on voit au verset 6 que Dieu peut dire « Le Seigneur des armées célestes nous a traités » enfin plutôt, pardon, ce sont les pères qui disent ça, que Dieu les a traités comme il avait résolu de le faire. Et on peut voir là peut-être aussi un encouragement. Si Dieu, qui aime son peuple, a tenu sa promesse lorsqu'il lui a dit que si le peuple se détournait de lui, il allait devoir le juger. Combien plus le peuple peut-il avoir cette assurance que s'il revient à Dieu, alors Dieu va tenir aussi cette promesse qu'il va revenir vers eux. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Revenir à l'Éternel, ça veut dire quoi ? On voit au verset 4 que, toujours concernant leurs ancêtres, il leur avait été dit « Abandonnez votre mauvaise conduite ». Alors, revenir à l'Éternel, ça veut dire qu'il faut tourner le dos à certaines choses, qu'il faut abandonner certaines choses dans notre vie. Abandonnez votre mauvaise conduite. Et si on l'abandonne, ça c'est ce qu'on appelle la repentance, hein, dans notre langage actuel, c'est pas ensuite pour se tourner dans n'importe quelle direction, c'est pour se tourner vers Dieu. Et on a un peu les deux mouvements qui devraient caractériser notre vie. La repentance, hein, on dit non à certaines choses, on reconnaît que c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et la foi, on se tourne vers Dieu en décidant de lui faire confiance pour avancer avec lui dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, lorsqu'on se détourne de Dieu, lorsqu'on oublie Dieu, lorsqu'on s'endort peut-être dans notre confort, faut-il avoir peur de revenir vers lui ? Est-ce que des fois, peut-être, on se dit, mais avec ce que j'ai fait, Seigneur, j'ose pas revenir vers lui. J'ai peur. Comment va-t-il me recevoir ? Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu nous aime. Si nous revenons vers lui, si nous nous tournons vers lui avec sincérité, avec repentance, il nous accueille les bras grands ouverts. Parce qu'il veut notre bien. Alors, chers frères et sœurs, lorsqu'on est tombé, lorsqu'on s'est endormi et qu'on ressent à un moment le besoin de revenir vers Dieu, n'hésitons pas. Dieu n'attend que cela de notre part. Et c'est avec amour qu'il va nous accueillir pour nous aider à nous redresser, pour nous aider à avancer avec lui et à sa gloire dans notre vie. Alors j'ai parlé de la repentance, de la foi. Bien sûr, il y a la repentance initiale, la foi initiale, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on devient enfant de Dieu. Mais cette repentance, cette foi, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qu'on a à vivre tous les jours de notre vie. Chaque fois qu'on tombe, chaque fois que Dieu nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors il faut nous tourner vers lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toute iniquité. Mais on trouve au début de la première lettre de Jean. Alors, Dieu aurait pu se contenter de dire à son peuple, voilà, eh bien, revenez à moi. Je suis Dieu, vous devez m'obéir. Et en effet, Dieu est Dieu, et en tant que ses créatures, la seule chose que nous ayons à faire, c'est de lui obéir. Et ce que je trouve de très touchant, et on va le voir, c'est que Dieu ne se contente pas de dire à son peuple, voilà, maintenant vous devez m'obéir. C'est que Dieu va donner sens à cette obéissance. Dieu va donner des motivations à son peuple pour le pousser à lui obéir. Et je trouve ça très beau. Parce que Dieu, en tant que le Dieu Tout-Puissant, j'allais dire, il n'a pas besoin de nous dire ça. On lui doit obéissance. Mais voilà, il sait, lui qui nous a créés, il sait comment on fonctionne, et il sait combien est, j'allais dire, grand, profond en nous le besoin d'avoir un sens à ce qu'on fait, de savoir pourquoi on fait les choses. Et alors peut-être que là aussi on peut avoir un enseignement, un encouragement pour toutes celles, tous ceux d'entre nous qui peuvent se trouver en position de responsabilité. Et là je ne parle pas spécialement en responsabilité dans l'Église, mais dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou même à l'école, hein, des fois on peut être délégué de classe ou tout ça. Chaque fois qu'on est en un domaine de responsabilité, eh bien, peut-être tenons compte de cet exemple que nous donne Dieu. Plutôt que de dire, eh bien, tu dois faire ça parce que moi je suis le chef. Ben, oui, c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est la meilleure façon? Alors que si on explique, on dit, ben, tu vois, il faudrait faire ça parce que, hein, puis on donne sens à ce qu'on doit faire, eh bien, peut-être que ça fonctionnera beaucoup mieux. Alors, suivons aussi l'exemple de Dieu. On va lire maintenant les visions qui suivent. J'ai pas fait attention. J'ai vu qu'il y avait une pendule, mais j'ai commencé à quelle heure? La deuxième année du règne de Darius, au 24e jour du 11e mois, le mois de Shébat, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le prophète, fils de Barachie, petit-fils d'Ido. Cette nuit, j'ai vu dans une vision un cavalier monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes, dans les profondeurs. Et derrière lui, il y avait d'autres chevaux, des roux, des gris verts, des blancs. Je demandais alors, « Monseigneur, que représentent ces chevaux ?» L'ange qui me parlait répondit, « Je vais te montrer ce qu'ils représentent. » Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes intervint en disant, « Ce sont les coursiers que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Alors les cavaliers s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et lui firent ce rapport. « Nous venons de parcourir toute la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. » Là-dessus, l'ange de l'Éternel s'exclama, « Seigneur des armées célestes, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem et contre les villes de Juda. Jusque à quand tarderas-tu à les prendre en pitié ?» Alors, l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait par des paroles bienveillantes, des paroles de consolation. L'ange qui me parlait me dit, « Proclame ces paroles. » Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Jérusalem, pour Sion, un amour passionné. Je suis saisi d'une violente indignation contre les nations qui vivent dans la tranquillité, car je n'étais qu'un peu irrité contre mon peuple. Mais elles ont accru son malheur. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je me retourne vers Jérusalem avec compassion. Mon temple y sera rebâti. Le Seigneur des armées célestes le déclare, et l'on étendra le cordeau d'arpenteur sur Jérusalem. Proclame encore ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Mes villes déborderont de nouveau de prospérité. L'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. Je regardai et je vis quatre cornes. Je demandai à l'ange qui me parlait, « Que représentent ces cornes ?» Il me répondit, « Ces cornes représentent les puissances qui ont dispersé les habitants de Juda, d'Israël, de Jérusalem. » Puis l'Éternel me fit voir quatre forgerons. « Que viennent-ils faire ?» demandai-je. Il me répondit, « Ils sont venus pour faire trembler les nations qui ont dispersé Juda, de sorte que personne n'osait plus relever la tête. Ils abattront les cornes de ces nations qui ont levé leurs cornes contre Juda pour en disperser la population. » Je regardai et je vis un homme qui portait un cordeau d'arpenteur. Je lui demandai, « Où vas-tu ?» Il me répondit, « Je vais mesurer Jérusalem pour en déterminer la largeur et la longueur. » Comme l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, « Cours dire à ce jeune homme là-bas, il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte. Moi, l'Éternel, je serai pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle, l'Éternel le déclare, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Allons, allons, fuyez, partez de ce pays du nord, l'Éternel le déclare, car je vous avais dispersé aux quatre vents du ciel, l'Éternel le déclare. Allons, Sion, échappe-toi, toi qui es installé dans la cité de Babylone. Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, lui qui m'a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont dépouillé. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Oui, je lèverai ma main contre elles, elles seront pillées par leurs esclaves, et vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé. Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse, communauté de Sion, car je viens habiter chez toi, l'Éternel le déclare. En ce jour-là, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel et deviendront mon peuple. Et je demeurerai au milieu de vous tous, et vous saurez que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, m'a envoyé vers vous. L'Éternel fera de Juda son domaine, son patrimoine, sur la terre sacrée. Il choisira de nouveau la ville de Jérusalem. Que, devant l'Éternel, toutes les créatures fassent silence, car le voici qui se réveille et sort de sa sainte demeure. On va s'arrêter là pour le moment et on continuera après. Voilà, beaucoup de choses dans ce qu'on vient de lire. Je veux juste en relever quelques-unes. Hein. Donc, voilà plusieurs visions qu'a eues le prophète. Et je voudrais, dans ces visions, relever quatre promesses que Dieu fait à son peuple. On pourrait probablement en trouver d'autres. Au verset 16. Alors là, quand je vais dire les versets, peut-être qu'on ne tombera pas tous sur les mêmes versets, parce que suivant les traductions, il y a deux numérotations différentes. Donc il peut y avoir un décalage des fois de quelques versets au début du chapitre 2, la fin du chapitre 1. Donc, au verset 1-16, Jérusalem et le temple vont être reconstruits. Voilà ce que Dieu dit à son peuple, qui avait commencé à reconstruire le temple, et puis qui s'était arrêté à cause des ennemis, et puis parce qu'il avait pris un peu ses aises. Dieu leur dit, voilà, ça ne va pas s'arrêter là. Ma ville, mon temple vont être reconstruits. Première point. Ensuite, chapitre 2, verset 4, avec cette vision des cornes et des forgerons, Dieu annonce que les nations vont être jugées. Il y a un jugement sur ces nations. Hein, on voit à la fin de la première partie que j'ai lue tout à l'heure. C'est ce que je viens de lire. Hein, quand l'ange qui demandait, mais jusqu'à quand ne vas-tu pas nous prendre en pitié? Ils ont l'impression que rien ne se passe. On a vu ces coursiers qui venaient, la terre était calme. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? On a voulu se mettre à ton service, commencer à construire ton temple. Les nations, là, sont venues nous mettre des bâtons dans les roues et rien ne se passe. Mais alors tes promesses ? Et voilà, là, Dieu leur dit, ces nations, elles vont être jugées. Ensuite, et j'aime beaucoup cette vision aussi avec l'arpenteur. Donc ça montre que justement, il va y avoir reconstruction de la ville. Et où Jérusalem nous est décrite dans la paix. Jérusalem, ça va être une ville ouverte. Ça veut dire quoi ? Eh bien, à l'époque, les cités, elles avaient une muraille autour de la ville. Parce que sans muraille, eh bien, elles étaient complètement sans défense devant l'ennemi. Alors là, Dieu annonce que la future Jérusalem n'aura plus de muraille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir des temps de paix. Et non seulement il va y avoir cette paix, mais aussi Dieu leur annonce qu'il va habiter au milieu d'eux. Dieu habitera au milieu de son peuple. La muraille de la ville, j'aime beaucoup au verset 9. Moi, l'Éternel, je serai pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle. Voilà, sa paix, c'est à Dieu qu'elle la doit. Et puis, Dieu sera sa gloire au milieu d'elle. Dieu va habiter au milieu de son peuple. Voilà donc ces quatre promesses qui sont faites. Et je crois que si Dieu les fait à son peuple, les donne à son peuple, c'est pas juste pour satisfaire leur curiosité ou juste pour une satisfaction intellectuelle. Non, on l'a vu au verset 13, il s'agit de paroles bienveillantes, de paroles de consolation. Le peuple qui s'était découragé avait besoin d'être consolé, d'être encouragé. Donc voilà une des raisons de ces promesses. Et c'est pas la seule. C'est pas la seule. Je crois que si Dieu donne ses promesses, c'est pour encourager son peuple à agir en fonction de ses promesses. Voilà ce que je te promets. Alors, maintenant, mets-toi en route pour aller dans la direction de ses promesses. Voilà ce que Dieu est en train de dire à son peuple qui était au creux de la vague. On l'a vu, il les appelle à quitter Babylone. Mets-toi en action. Je t'annonce que le jugement va tomber sur les nations. Il y avait beaucoup d'Israélites qui vivaient encore dans la province de Babylone. Dieu leur dit, mais si le jugement va tomber là-dessus, alors quitte cette ville. Quitte cette ville pour rejoindre Jérusalem. Quitte cette ville pour venir dans le lieu de la présence de Dieu. On l'a vu, Dieu a dit, moi, je vais habiter à Jérusalem. Et dans la fin, on voit que Dieu exhorte son peuple à pousser des cris de joie, à se réjouir. Donc ces promesses, elles sont là aussi pour avoir des implications très concrètes, très pratiques dans notre vie. Là aussi, on peut faire un parallèle avec nous. Comme le peuple, je l'ai dit, nous sommes engagés dans la construction d'un nouveau temple, l'Église, la Nouvelle Jérusalem. Là, on trouve ça dans l'Apocalypse, cette Nouvelle Jérusalem, au chapitre 21. On voit que aussi ce nouveau temple, il est constitué de pierres vivantes, dans la première lettre de Pierre au chapitre 2. Nous aussi, on sait qu'un jour, il va y avoir jugement. Jugement sur le mal, tout mal commis. Jugement sur les nations. On le trouve aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 toujours. On le trouve ailleurs. Nous aussi, on sait que un jour, la Nouvelle Jérusalem, elle sera pleinement dans la paix. Lisons aussi ce qui nous est dit de cette Nouvelle Jérusalem, toujours dans l'Apocalypse au chapitre 21, au début du chapitre 21. On voit que ça va être la paix. Et dans cette Nouvelle Jérusalem aussi, toujours dans l'Apocalypse 21, on voit que Dieu va habiter là. C'est lui qui sera la lumière de la vie, de la ville. Donc, vraiment des parallèles qu'on peut faire avec la situation du peuple à l'époque. Alors, si Dieu nous donne aussi ses promesses à nous, ses promesses de paix à venir, qui nous dit aussi qu'un jour, tout mal sera jugé. Heureusement que Dieu nous dit ça, parce que quand on subit des injustices, c'est quand même un réconfort de savoir qu'un jour, si cette injustice n'a pas été réglée sur la terre, un jour, Dieu réglera la moindre injustice. C'est aussi encourageant pour nous. Donc c'est aussi une promesse que Dieu nous fait. Et Dieu nous dit aussi, voilà que nous aussi on habitera. Il habitera plutôt avec nous dans cette nouvelle Jérusalem. Alors s'il nous dit cela, c'est pas juste comme pour le peuple, pour satisfaire notre curiosité intellectuelle et puis se dire, ben voilà, ça va être super ce qui nous attend. Et puis, j'attends que ça arrive. Non. Si Dieu nous dit qu'un jour son jugement va s'abattre sur ceux qui vivent sans lui, c'est aussi pour s'adresser à nous, même si nous sommes ses enfants. C'est aussi pour nous dire, mais même si tu es mon enfant, quand tu fais des choses qui ne sont pas selon moi, je ne peux pas laisser passer. Alors bien sûr, nous savons que Jésus-Christ a payé pour nous. Mais c'est quand même très concret. C'est pas parce que Jésus-Christ a payé pour nous que maintenant on a le ticket pour le ciel et qu'on peut se dire, eh ben c'est bon, j'ai l'assurance de mon salut, je peux faire n'importe quoi. Non. Si nous savons que Dieu va juger tout ce qui n'est pas selon sa volonté, alors ça veut dire, eh bien, écartons de notre vie ce que nous savons ne pas être selon la volonté de Dieu. On y reviendra après dans une autre vision. Et je crois qu'on peut avoir une motivation double par rapport à cela. D'une part, fuir ce jugement de Dieu, et d'autre part, parce qu'on veut rechercher la présence de Dieu. Et il me semble que c'est ce deuxième aspect qui doit passer en premier. Parce que, chers frères et sœurs, si nous aspirons à vivre dans la présence de Dieu, si nous aspirons à être en heureuse communion avec Dieu, eh bien, j'allais dire, presque de façon naturelle, on va laisser tomber ce qui n'est pas selon lui. Parce que on se trouve tellement bien avec Dieu. Parce que, voilà, notre amour pour lui est en train de grandir. Et quand on aime quelqu'un, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on aime quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de renoncer à des choses pour cette personne, voilà, parce qu'on l'aime, parce qu'on sait que ça lui fait plaisir. On peut voir ça dans le couple, bien sûr, mais aussi dans les amitiés qu'on peut développer. Et bien parce que c'est mon ami, oui, c'est vrai que ça, j'aimerais le faire, mais je sais que ça va pas lui plaire. Et bien, oui, parce que j'aime mon ami, moi je le fais pas. Et je crois que pour nous, si vraiment on aspire à vivre dans cette relation avec Dieu, alors ça va être beaucoup plus facile de laisser tomber certaines choses. Parce qu'on aime Dieu et qu'on sait que ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Et peut-être que des fois, malheureusement, on veut prendre le chemin inverse. On veut se dire, ben, pour être près de Dieu, je dois laisser tomber ça. Et puis là, ben, rapidement, on finit par tomber dans ce qu'on appelle un légalisme. Et des fois, avec le légalisme, la vie véritable peut être totalement absente. Alors que lorsque la vie véritable est là, lorsque la relation est là, oui, il y a des conséquences derrière. Si notre destinée future, c'est d'habiter cette nouvelle Jérusalem, cette Église, hein, dans le Nouveau Testament, la nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. Alors, bien sûr qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité de participer à sa construction. Est-ce qu'on n'a pas envie que ce lieu où Dieu va habiter, où nous serons avec lui, soit le plus beau possible? Et alors, pour qu'il soit le plus beau possible, eh bien, j'allais dire, il faut qu'il y ait le plus de personnes possible, le plus d'hommes et de femmes qui se soient donnés à Dieu. Alors, voilà, cette vision de l'avenir doit aussi avoir des répercussions dans notre vie de chaque jour. Et là aussi, si notre éternité future, c'est de vivre avec Dieu, croyons-nous, qu'il serait cohérent de se dire, ben, ok, je vais vivre avec lui dans l'éternité future, pour le moment, je vais faire tout ce que j'ai envie, Et puis Dieu, ben, ça sera pour après. Est-ce que c'est cohérent? Imaginez une jeune fille qui est en train de préparer son mariage. Et puis, voilà, elle doit être la plus belle possible, bien sûr, pour le jour de son mariage. Et donc, elle va s'acheter une belle robe, hein, qui lui va bien. Voilà, et ça, en général, elle n'attend pas la veille du mariage pour le faire. Hein, c'est fait, c'est fait bien avant. Parce que, voilà, le jour de son mariage, elle veut vraiment être resplendissante dans sa robe. Pensez-vous qu'il va lui venir à l'idée, en attendant le mariage, soudain, de se mettre à manger, à manger, à manger, de sorte que le jour de son mariage, elle ne va plus rentrer dans sa robe? Hein? Bien sûr que non. Elle va faire attention à sa ligne, elle a essayé sa robe, elle sait qu'elle y rentre juste, donc elle dit, ben voilà, ben maintenant il faut que je garde cette ligne jusqu'au jour de mon mariage. Voilà, elle a cet objectif qui est devant, et elle va du coup organiser, au moins en partie, sa vie en fonction de cet objectif-là, en fonction de ce qui l'attend. Et bien là aussi, si ce qui nous attend, c'est de vivre dans la présence de Dieu, alors être cohérent avec notre destinée future, c'est de commencer à vivre avec lui dès aujourd'hui, dans une relation harmonieuse avec lui dès aujourd'hui. Alors, en même temps, pour vivre en fonction de cet avenir qui nous est laissé, qui nous est dressé, si on est laissé à nous-mêmes, je pense qu'on va vite mesurer nos limites. On va vite mesurer que c'est difficile. Et il me semble que dans les deux visions qui suivent, Dieu nous donne quelque chose pour vivre en fonction de cet avenir. Chapitre 3. C'est une nouvelle vision. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur !» Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu ? Or, Josué était couvert d'habits sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui tenaient devant lui et leur ordonna « Ôtez-lui les vêtements sales !» Et il s'adressa à Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai « Qu'on lui mette un turban pur sur la tête !» On lui posa donc le turban pur sur la tête et on le revêtit d'autres habits. Or l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant moi, car vous êtes des hommes qui servait de préfiguration. En effet, je fais venir mon serviteur qui est appelé le Gerbe. Voici, que je pose une pierre devant Josué. Sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. J'y graverai moi-même son inscription. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare. Vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Je m'arrête là. On va aller un peu vite parce que je vois quand même que l'heure avance. Oula, oui, alors on va aller très vite. Donc, Josué a des habits sales. Pourquoi ? Eh bien parce que il n'y a plus... Le temple a été détruit, il n'y a plus pu avoir les sacrifices offerts. Et donc... l'expiation n'a plus pu être faite. Et on voit là que Dieu va intervenir dans sa grâce. Il y a l'accusateur qui est là pour l'accuser. Et Dieu, dans sa grâce, va ôter les abyssales et le revêtir de nouveaux habits. Alors, chers frères et sœurs, nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu aussi, par grâce, lorsqu'on s'est tourné vers Jésus-Christ, a ôté nos abyssales et il nous a revêtus de la justice de Jésus-Christ. Et alors nous aussi, dans notre vie, on peut entendre l'accusateur. Regarde ce que tu as fait là. Tu crois que Dieu il aime ça? Et alors, si c'est qu'il y a un travers dans lequel on retombe souvent, eh bien, on a honte de nous. Quand même, je ne vais pas oser encore une fois revenir vers Dieu. Ça fait tellement de fois que je reviens vers lui et que je recommence. Ça, c'est l'accusateur. Parce que le chemin, c'est de revenir vers Dieu. On l'a vu tout à l'heure. C'est la seule solution. Oui, l'accusateur essaie de nous enfoncer. Mais il ne faut pas écouter sa voix. Il faut écouter la voix d'amour de Dieu qui nous dit « Reviens vers moi ». Alors bien sûr, revenir vers lui quand même avec droiture, avec sincérité, pas en se disant bah, « Tiens, je reviens vers toi puis je recommence demain ». Ça, non, Dieu, il n'en veut pas. Par contre, si on revient vers lui en lui disant « Tu sais, mon Dieu, j'ai trop honte de moi. Encore une fois, je suis tombé dans ce travers. Je te demande de me pardonner. Et je te demande de me venir en aide, parce que je veux en sortir avec ton aide. » Alors ça, il faut y aller. Et il ne faut pas écouter la voix de l'accusateur qui est là pour nous enfoncer toujours plus. Peut-être aussi des fois, il nous rappelle des choses qu'on a déjà réglées. Alors si c'est le cas, on peut lui dire non, ça c'est réglé. On n'a plus à y revenir dessus. Une fois qu'on a réglé ça devant Dieu, c'est fini. Même si on peut regretter de l'avoir fait, de toujours avoir une certaine souffrance, c'est fini, c'est réglé. On peut avancer en pleine communion devant Dieu. Et puis si l'accusateur nous rappelle quelque chose qu'on n'a pas réglé devant Dieu, eh bien alors là, comme le disait un orateur, on peut presque lui dire merci. Eh bien, je vais vite régler ça devant Dieu. Parce que je sais que Dieu ne va pas m'enfoncer, mais au contraire, va m'aider à avancer. Alors, je vais encore rapidement, on ne va pas lire le prochain chapitre, parce que... Le temps est là, mais une deuxième chose que Dieu nous donne, on a besoin de sa. Là, on a vu qu'on avait besoin de sa grâce hein, pour notre vie, et là, il nous donne son esprit. Je vais quand même lire le verset. Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. De quelle œuvre il est en train de parler? De la reconstruction du temple. Il y avait peut-être un monceau de débris de l'ancien temple, et puis on pouvait perdre courage devant ça. Et Dieu dit à son peuple, « Mais je vous donne mon esprit. C'est pas par force, pas par bravoure, mais grâce à mon esprit que vous allez arriver à reconstruire ce temple. » Alors, cela, c'est aussi quelque chose que Dieu donne à chacune et chacun d'entre nous. Et je l'ai dit, si on était livré à nous-mêmes pour vivre selon cet avenir, selon ces promesses qu'il nous donne, on sent vite nos limites. Mais Dieu nous dit, pour vivre cela, tu peux compter sur ma grâce. Et ça, c'est indispensable. Et pour vivre cela, tu peux aussi compter sur mon esprit qui va t'aider à avancer. Ensuite, et je vais terminer, pareil, je vais résumer les deux chapitres suivants, 5 et 6, parce qu'il me semble qu'il y a un autre élément important. On peut compter sur la grâce de Dieu, on peut compter sur son esprit, et alors peut-être on pourrait être tenté de se dire, eh bien, Eh bien, j'attends. C'est l'esprit qui va agir. J'attends. Et il me semble que les visions qui suivent nous disent « Non, tu n'attends pas. Tu te mets en route pour vivre selon ce que j'attends de toi. Tu es responsable, tu es un être responsable. Et alors, tu mets en œuvre ta responsabilité. Bien sûr, en comptant sur ma grâce. Bien sûr, en comptant sur l'aide de mon esprit. Mais moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses ce qui est en ton pouvoir de faire. » Et alors, cette première vision, hein, c'est un rouleau qui vole, sur lequel il y a des malédictions qui sont écrites, et ces malédictions qui vont tomber sur les voleurs, voilà, sur ceux qui prononcent de faux serments. Ça s'adresse au peuple de Dieu. Là. C'est comme si Dieu était en train de dire à son peuple, voilà, tu es en train de reconstruire mon temple, c'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste que tu reconstruises mon temple, c'est pas juste que tu m'en rendes culte pour transposer aujourd'hui le dimanche. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ta vie de chaque jour, tu vives selon ce que j'attends de toi. Le vol, le mensonge. Non, ça j'en veux pas. Et dans la vision qui suit, on voit que il y a un effa aussi dans lequel il y a une femme, et puis tout ça doit être emmené à Babylone, la cité du mal, et que là-bas ça va être fixé sur un piédestal. Dieu est en train de dire à son peuple, le mal, ce qui n'est pas selon moi, ça, c'est à Babylone, ça se trouve. C'est pas dans la nouvelle Jérusalem. Toi, ce que je te demande, c'est de vivre selon les lois de mon royaume. Au chapitre 6, je vais vite, hein, mais vous relirez ces chapitres et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Et là aussi, au chapitre 6, je résiste pas à vous lire encore deux versets. Il y a une nouvelle vision, cette fois des chars avec des chevaux, et on voit qu'ils vont exécuter le jugement de Dieu sur la terre. Donc voilà, Dieu est en train de dire à son peuple, voilà, tu me demandais quand est-ce que ça allait se passer. Oui, je te confirme que ce jugement, il va bien arriver. Et puis ensuite, verset 12. Écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est Germe. Sous ses pas, tout germera. Il reconstruira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale. Il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. Verset 15. Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du temple de l'Éternel. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel, votre Dieu. On l'aura compris, ce germe dont il est question ici, dont il a été question dans une vision précédente, n'est autre que la personne de Jésus-Christ. Sous ses pas, tout germera. Jésus-Christ, c'est la vie. Il est celui qui donne la vie. C'est ses germes qui éclosent. Et le point sur lequel je voulais venir, c'est lui qui bâtira son temple. C'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. On est bien d'accord là-dessus. Alors si c'est lui qui l'a bâti, est-ce que ça veut dire que moi j'ai rien à faire? Que nous dit le verset 15? Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du temple de l'Éternel. Alors, c'est Jésus qui l'a bâti ou c'est les gens? C'est nous qui bâtissons l'Église ou c'est Jésus-Christ? Eh bien, Jésus-Christ, bien sûr, c'est lui qui construit son Église. Bien sûr, c'est lui qui, par l'œuvre du Saint-Esprit, amène les personnes à la repentance pour devenir de nouvelles pierres vivantes. Mais cette œuvre-là, il veut la faire en passant par nous. Il veut que nous mettions en œuvre notre responsabilité. Alors, chers frères et sœurs, Dieu a pour nous des projets merveilleux. Un jour, nous serons dans le royaume de Dieu. avec lui. Ce sera la paix. Il n'y aura plus de mal. Toutes les conséquences du mal auront disparu. On sera dans sa présence. Ce sont des promesses que Dieu nous fait, à nous aujourd'hui, pas simplement au peuple d'Israël, hein, on l'a vu. Ce sont des promesses qu'il nous fait au ciel. Et ces promesses, on peut avoir la certitude qu'il va les accomplir, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Parce qu'il a déjà commencé à les accomplir en la personne de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est déjà venu à nous en la personne de Jésus-Christ. Dieu habite déjà avec nous, au sein de son Église, dans nos cœurs, dans nos vies, par son Esprit. Mais on sait que ce n'est pas encore le royaume de Dieu dans toute sa plénitude. Le mal, les conséquences du mal sont encore là. Alors, si Dieu nous donne ses promesses, c'est pour que nous vivions selon cet avenir. Vivre selon cet avenir, c'est mettre en œuvre ce qui est de notre responsabilité. Rechercher la présence de Dieu dans notre vie de chaque jour. Et cela nous amènera à tourner le dos, à ce qui n'est pas selon Dieu. Et comme je l'ai dit, cela peut nous paraître difficile, mais Dieu nous équipe pour cela. Dieu nous accompagne de sa grâce dans notre vie. Dieu nous donne son esprit pour vivre à sa gloire et selon cet avenir qu'il veut pour nous.